Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour à vous.
Je suis particulièrement contente de vous rencontrer et je viens de vous le dire parce que votre livre Vengeance, le droit de ne pas pardonner aux éditions Stock est selon moi vraiment un livre d'une grande puissance. Quelle serait votre définition de l'innocence, Laurence ?
Oui, je commence d'ailleurs, vous avez raison, par l'innocence. Je crois que l'innocence, ce n'est pas uniquement le contraire de la culpabilité. Je crois que l'innocence, c'est le droit à exister, à être le sujet de sa vie, c'est-à-dire avoir des intentions, des projets, un passé, un futur, des envies, des désirs, avoir un monde et être au monde. Et je pense que quand l'injustice vient vous frapper, elle vous prive totalement de tout cela. Donc on est plus jamais dans cette innocence, cette insouciance à être ce qu'on est. Et en même temps, on n'est plus du tout dans l'innocence morale, c'est-à-dire que c'est comme si on voyait les coulisses du monde et on se dit « Ah oui, il y a donc de l'injustice ».
Parce qu'il y a autre chose à préciser quand même, c'est que votre livre ne défend pas l'idée de la vengeance sur le même tempo que l'agression. C'est-à-dire que vous ne parlez pas de vengeance au sens d'une colère agressive qui serait sur le même mode aussi agressif. Pas du tout.
Oui, en fait, ce qui était très difficile avec la vengeance, c'était que on a énormément de représentations, souvent caricaturales. La vengeance, comme vous le dites, qui est une réaction quasi pulsionnelle, primaire, archaïque, quasi inhumaine. Et donc, quand j'ai voulu analyser ce que je ressentais moi et le faire en philosophe. Et quand j'ai voulu redonner du sens à la vengeance, j'ai dû déjà me défaire de tout ce qu'on plaque sur la vengeance et tout ce qu'elle n'est pas. Et c'était très difficile parce qu'on a immédiatement, d'ailleurs quand j'en parlais autour de moi, avec des victimes et des non-victimes d'ailleurs, il y avait immédiatement des réponses qui, à mon avis, ne sont pas les bonnes. C'était, alors ce que vous dites, la vengeance est une réaction qu'il faudrait donc maîtriser parce que l'émotion ou la réaction émotionnelle n'est pas bonne. Donc là, je commence à demander pourquoi. Je crois qu'il y a des colères. Quand la colère se perd en brutalité, c'est-à-dire quand elle n'a plus de mots ni de raison, oui, c'est pas une saine colère, mais il y a des colères justes. Il y a des colères d'indignation devant l'injustice, devant la violence que certaines personnes imposent à d'autres et devant le silence qui entoure l'injustice. Donc ça, c'est une colère juste. Et puis, on me disait immédiatement, c'est la haine. Non, la colère est l'inverse de la haine. Déjà, pour la raison que vous donnez, c'est que la vengeance ne veut surtout pas faire ce qu'elle a elle-même subi, ce que l'offensé a lui-même ou elle-même subi, c'est-à-dire se mettre au même niveau que la brutalité de l'offenseur. Donc la vengeance, c'est au contraire tout ce travail pour se sortir de cette violence dans laquelle on a été maintenu. Donc c'est tout autre chose que répondre par la violence, par de la violence à nouveau. Donc, c'est absolument pas la haine. Et aussi parce que la haine maintient dans la dépendance de l'autre. En fait, plus vous haïssez quelqu'un, plus vous continuez à dépendre de lui.
Oui.
Et à faire dépendre votre vie de lui. Alors que la vengeance, c'est s'extraire totalement de cette dépendance et de l'injustice et de l'offenseur et même du statut de victime qui n'est pas le vôtre, que vous avez subi, dans lequel on vous a relégué. Donc, la vengeance n'est absolument pas la haine. C'est pas la loi du talion non plus. Parce que la loi du talion, c'est dire si on vous a pris un œil, ne prenez qu'un œil. Donc c'est déjà une manière de limiter, peut-être de trahir le désir de vengeance qui demande beaucoup plus que cela, qui est hors de toute quantification. Donc vous voyez, en fait, pour essayer de travailler sur la vengeance et de comprendre ce qui m'était arrivé et ce que je ressentais, j'ai dû me libérer, me défaire de toutes ces représentations, parce qu'elles étaient fausses et parce qu'elles m'empêchaient de me libérer de l'obligation de pardonner, d'avancer, de tourner la page et de me reconstruire. Donc, j'ai été un peu longue, mais parce que mon travail a été très long de justement d'éclaircir le champ, de doter tout cela pour penser enfin la vengeance.
Alors, vous n'avez pas été très long parce que c'est un format quand même qui est pour vous aussi, Laurence de Villers. C'est-à-dire que on ne peut pas comprendre, et ça, on le voit bien dans votre écriture aussi, on ne peut pas comprendre les choses en faisant des raccourcis. Et vous prenez le temps de, alors à la fois de nous expliquer ça parce que finalement, ce que vous induisez comme idée dans cette vengeance dont vous parlez, c'est celle pour la victime de revenir à un présent qui lui a été volé, d'une part, et en même temps de sortir d'une relation qu'elle n'a pas demandé, qu'elle n'a pas sollicité, puisque finalement, ce que vous expliquez, c'est qu'une fois qu'on a été victime après, à la victime de porter tout un tas d'actions. Le pardon, la justification, la combativité éventuellement, le désespoir, un procès. En fait, c'est à elle de porter quelque chose qui ne lui appartient pas.
Oui, ça va sembler paradoxal, mais je crois que le désir de vengeance est une libération. C'est une libération à la fois de ce qu'on a vécu, parce qu'on peut dire que ce qu'on a vécu n'était pas justifié. Et il se passe quelque chose de très surprenant et douloureux pour une victime, c'est qu'elle se sent coupable de ce qui lui est arrivé. Elle se sent coupable immédiatement, elle se le dit, on lui dit aussi, mais elle se le dit à elle-même, et ça peut durer toute une vie, ça peut durer des années. Et je suis même pas sûre, moi-même, alors que j'y réfléchis, de m'être libérée de la fausse idée que si j'ai été victime, c'est parce que... finalement, j'y étais pour quelque chose. Et le désir de vengeance, à mon sens, est la seule chose qui libère de cette culpabilité qu'on attache à la victime. Alors, évidemment que les offenseurs s'en servent, que les agresseurs se servent de cette suspicion généralisée autour de la victime. C'est pas prouvé, est-ce que c'est bien sûr? Est-ce que c'est exactement cela? Encore une fois, que la victime intériorise aussi. En réalité, le désir de se venger, mais on le précisera, mais le désir de se venger commence par le fait de se dire « je ne suis pas coupable ». Et que la victime accède à cette possibilité de dire que les seuls coupables sont les coupables. C'est cela, en réalité, qui donne du sens à cette expression qu'on emploie et que je ne comprenais pas bien. La honte change de camp. Avant d'être victime, on se dit la honte, elle est du côté de ceux qui accomplissent des actes de violence et d'injustice. Mais non, en fait, c'est la victime qui a honte. Elle a honte d'elle presque immédiatement et encore une fois, très longtemps. Et donc, le désir de vengeance commence par remettre les coupables à leur place. Donc, c'est une libération. Et puis, vous l'avez dit, quand on subit une injustice, en fait, le cours de notre vie est coupé en deux, on ne sera jamais celui ou celle qu'on aurait pu être et dû être si l'offenseur n'était pas venu vous détruire. Donc en fait, on nous a volé notre passé aussi, parce que comment faire coïncider les moments qu'on a voulu, l'être qu'on a été dans son passé avec celui qu'on est devenu par la violence, et on nous prive du futur qu'on aurait eu. Donc le désir de vengeance qui dit « les coupables sont coupables », honte à eux, et je ne pardonnerai pas, vous redonne non seulement une forme d'assise, vous avez la capacité à dire ce que vous voulez, alors que l'injustice vous en a privé, et vous redonne une liberté que vous n'aviez pas.
Parce que la victime, précisons-la, les quatre victimes dont vous parlez là, vous dites que ce sont des cas d'agression physique, sexuelle, mais aussi morale. Par exemple, on pense au harcèlement en entreprise. Donc déjà, enfin, vous l'expliquez très précisément dans votre livre, je n'y reviens pas. Mais vous dites aussi que quand on observe les choses, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, la justice est limitée, puisque... on ne peut pas d'abord mettre en concurrence le récit de l'agressé et de l'agresseur. Ensuite, vous dites que de toute façon, une réparation en biens matériels ou en psychologie ne suffisent pas.
Alors en fait, oui, ça c'était un travail délicat, parce que je tiens à dire que la vengeance n'est pas non plus la vendetta ou le lynchage ou la justice expéditive.
C'est ça.
Ça, je pense que c'est aussi une représentation fausse qui pèse sur la vengeance et qui fait que... même le mot fait peur, oui. Le mot de vengeance. Parce que disent ces justices expéditives de vendetta ou de lynchage en fait, c'est dire que la justice n'existe pas et que du coup, tout est permis d'une certaine façon. Alors que la vengeance, c'est l'exact contraire. C'est, d'ailleurs, dans l'étymologie, vengeance vient de vendicare, réclamer justice. Donc la vengeance dit au contraire qu'il faut que la justice qui n'a pas protégé la victime viennent la protéger maintenant, et surtout protège les prochaines victimes. Donc en fait, dans la vengeance, il y a l'idée qu'il faut remettre de l'ordre dans le monde, qu'il faut faire en sorte que le juste et le bien triomphe. Parce que l'injustice, rapidement, c'est quoi? C'est pas seulement une violence, c'est pas seulement ne pas obtenir ce à quoi on a droit, c'est déjà violent, mais il y a une violence beaucoup plus fondamentale qui est de détruire une personne en y ajoutant le mensonge. Donc de dire c'est pour le bien commun, c'est dans votre intérêt. Donc l'injustice, c'est toujours le mal. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de retrouver des mots forts dans notre époque qui édulcore beaucoup. C'est le mal, c'est la destruction d'une vie et d'un être, psychologiquement, sexuellement ou physiquement. À quoi s'ajoute le mensonge ? Et y compris un mensonge institutionnel, des institutions qui perpétuent l'injustice, qui la taisent et qui la permettent. Donc, quand en fait la victime dit ou accède à un désir de vengeance, elle dit que tout cela n'est pas permis, qu'il ne faut pas laisser le monde aux mains des offenseurs, des menteurs et des méchants. Donc, il y a une volonté, au contraire, de remettre, de demander la justice. Alors maintenant, toute victoire de la justice des tribunaux est, à mon sens, une victoire pour tous et pour la société. Mais il se passe quand même quelque chose pour la victime, deux choses. D'abord, il faut avoir le courage d'aller en justice.
Bien sûr.
Et je pense qu'on a le droit de ne pas avoir ce courage quand on est victime. C'est très douloureux pour la raison que vous avez mentionnée, c'est que votre parole va être une parole parmi d'autres, que ce que vous allez raconter, parce que c'est le principe du contradictoire, va être opposé à ce que raconte l'offenseur ou les prévenus. Qui sont présumés innocents, alors qu'en fait, vous savez dire que le seul innocent ici, c'est vous. Donc pour la victime, c'est très douloureux, et puis on revit ce qu'on a vécu. On est exposé, mis à nu, et puis on va essayer de faire en sorte que votre parole ne vaille pas grand-chose. Donc je comprends que des victimes ne veuillent pas aller au procès. Je le comprends parfaitement. Il ne faut pas se sentir coupable de ne pas avoir ce courage-là. Et puis, quand je parlais avec des victimes, même quand elles ont remporté un procès, c'est-à-dire que la vérité a été faite, enfin, et donc les seuls coupables sont ceux que la justice a désignés comme coupables, il y a quelque chose qui reste insatisfait. Et j'ai essayé de comprendre cela. Je pense que bien que les victimes ne confondent pas du tout la justice avec une thérapie, hein. En justice, on vient demander que la vérité soit faite. Et on sait très bien que notre souffrance ne va pas être apaisée, ni effacée. La souffrance, de toute façon, elle reste. Ce qu'on vous a fait, on vous l'a fait à jamais. Pour une victime, la prescription n'existe pas. Pour toujours, vous avez vécu ce que vous avez dû vivre. Mais il y a quelque chose qui reste insatisfait, vous l'avez dit, parce que d'abord, la victime n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, n'est toujours pas au centre du procès. Alors, il y a des efforts qui ont été faits en France, où on informe beaucoup plus la victime, mais dans le cours du procès pénal, la victime est informée, mais le procès se fait sans elle. Et ça, c'est le résultat d'une histoire. C'est-à-dire que en France, l'État a monopolisé la justice. Mais au départ, c'était les victimes qui venaient demander justice et vengeance. Donc les victimes étaient accusatoires, elles venaient accuser. Et puis, par une rationalisation de la justice, par la constitution d'un État centralisateur, comme on l'a en France, c'est l'État, à travers ses officiers, qui s'est arrogé le monopole de l'accusation. Donc ça, c'est un résultat historique. Moi, je pense qu'il faut entendre la victime qui accuse. Il faut entendre la victime dire, quand c'est le cas, je ne pardonne pas, je ne pardonnerai pas. Ou la victime dire, j'aimerais me venger, j'aimerais que ce qu'on m'a fait n'ait jamais eu lieu. Et ça, en réalité, on ne le fait pas. Et il y a de nos jours une préférence pour les discours de résilience des victimes combatives qui disent se reconstruire. C'est très bien, moi je les admire. Moi, je ne le fais pas et je ne veux pas pardonner. Non seulement je ne le veux pas, mais je tiens au fait que je ne veux pas pardonner.
Vous dites une chose, je vous coupe la parole parce que ça me fait penser dans votre livre, vous dites une chose qui m'a fait sourire et en même temps qui est une chose très éloquente. Vous dites, ce n'est pas parce qu'on passe l'éponge qu'on est quelqu'un de bien.
Mais non, je pense que c'est important de dire que le courage n'est pas uniquement du côté du pardon. Il y a un courage à assumer le fait que ce qu'on vous a fait est insurmontable. Ce qu'on vous a fait est impardonnable. Et pour moi, le désir de vengeance, qui est un désir, j'insiste, hein, parce que le fait même de désirer quelque chose quand vous avez été réduit à moins que rien. Très souvent, on dit que la victime, elle est réduite à l'état de chose. Mais c'est même pas vrai, c'est pire que ça. Parce que la chose, elle a une utilité. La victime, elle est réduite en deçà d'une chose, parce qu'on lui fait comprendre qu'elle ne sert à rien, qu'elle n'aurait pas dû exister. Que dit véritablement l'offenseur à une victime ? Je ne veux pas que tu existes. Donc, quand on a été réduit à cet état, moi je dis un état de pantin, moi j'ai été ce pantin où on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait même plus si on a le droit de vouloir quoi que ce soit. Eh bien, le fait même de désirer et de désirer ne pas pardonner, de désirer se venger de ce qu'on vous a fait, ah ben c'est déjà la première victoire en réalité.
Mais alors comment subordonner le pouvoir en bien ?
Mais je pense qu'en fait, alors je vais peut-être vous dire quelque chose de contre-intuitif, mais je crois que la vengeance c'est une affaire de gentils. Pourquoi ? Parce que je crois que ceux qui désirent la vengeance ont un coup de retard, parce qu'ils étaient innocents. Peut-être naïfs même, je l'assume. Ils n'ont pas vu que l'injustice était toujours là. Que les institutions étaient des lieux parfois d'injustice institutionnalisée, des zones de non-droit, où parce qu'il y avait du pouvoir, il y avait de l'abus de pouvoir, et l'abus de pouvoir veut dire tout est permis, on est au-dessus des lois. Et je crois que ceux qui accèdent à cette volonté de ne pas pardonner et donc de se venger de ce qu'on leur a fait, comprennent un peu tard, mais que l'injustice est première. Et qu'en réalité, ce qu'on pensait devoir nous protéger, les institutions, ou les institutions qui avaient la vocation qui est censée être la leur, la charité, le mérite, les postes donnés aux plus méritants, la justice, la transparence, la démocratie, tout ça, on se rend compte qu'en fait, bah non, c'était pas vrai. Donc, le désir de se venger, c'est une affaire de gentils qui n'ont pas su voir qu'à ce moment-là, il fallait répliquer et peut-être dénoncer. Ou alors qu'en dénonçant, c'est vous qui allez en payer le prix. Donc je crois qu'il y a dans le désir de vengeance, cette naïveté qui est reconnue, qui a fait qu'on y a cru et qu'on a payé le prix fort. Donc oui, c'est vraiment à l'encontre de ce qu'on voit dans la vengeance. Mais je crois que, effectivement, comme vous le disiez, c'est l'affaire de quelqu'un de bien parce qu'il s'agit de s'indigner très fortement et de dire « il faut que justice soit faite, ça ne doit pas être permis ce qui a cours ». C'est le contraire de celui, parce que je l'ai entendu, on m'a beaucoup dit « mais tourne la page, oublie, passe à autre chose, t'es plus forte que ça ». Alors quand on est détruite, complètement détruite, qu'on vous dit « t'es plus forte que ça », on ne voit pas du tout ce que ça veut dire. Hein. Ou alors « t'es au-dessus de ça ». Mais non, on n'est pas au-dessus, on est en deçà. Et on n'est pas au-dessus de ça, parce que ça, cette injustice qu'on vous a faite, il faut au moins la dénoncer pour la prochaine victime. Une injustice qu'on ne dénonce pas, où on dit « bah oui, c'est comme ça, la société est comme ça, le monde est comme ça, le pouvoir est comme ça », ben on permet la prochaine victime. Donc je pense que avoir le courage de dire que ça, c'est impardonnable, et qu'il faut pouvoir aussi s'en venger, on va peut-être voir comment, mais qu'il faut pouvoir... La vengeance, c'est déjà dire que tout cela n'est pas possible, ne devrait pas être permis, et que c'est impardonnable. Eh bien, je pense que c'est faire œuvre de justice pour la société, en réalité. Que vaut une société qui édulcore l'injustice, qui édulcore la terreur morale, qui édulcore l'abus de pouvoir dans les institutions? Que vaut une société qui dit, parce qu'on l'entend de nos jours et je l'ai entendu, oui, tout le monde le sait. Tout le monde le sait et donc tout le monde se tait. Et je pense que la vengeance remet l'exigence de justice à la hauteur qui est la sienne et qui devrait être la sienne.
Alors, ce qui est intéressant, vraiment, c'est que vous faites appel là à toute une logorée habituelle et quotidienne autour d'une forme de criminalité, on va dire. Alors maintenant, quand on passe au comment, dans votre livre, vous soulignez le fait que ce qui compte le plus, c'est que l'agresseur soit quelque part dans une zone de néant.
Oui. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça. J'en ai parlé avec des victimes. Et... Alors, il y a le premier point que vous soulevez et qui me semble très important parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'indécent dans notre époque de positivation à tout prix. C'est-à-dire le fait de nuancer, euphémiser l'injustice, de la ramener à du psychologique, alors que c'est un problème politique, d'abus de pouvoir et de silence autour de l'abus de pouvoir, c'est-à-dire l'impunité de ceux qui sont au pouvoir. Le fait de le psychologiser, je l'ai entendu, de dire « oui, il est très autoritaire, il est comme ça, oui, mais elle est très pressée, donc c'est parce qu'elle va vite, qu'elle est un peu brutale ». Cette euphémisation, cette psychologisation de ce qui est en réalité, j'insiste, un problème politique de permissivité autour de l'abus de pouvoir, fait qu'on ne réformera pas les choses. Le fait aussi de faire tout peser sur la victime qui doit se reconstruire, parce qu'on ne veut pas l'entendre se plaindre trop longtemps. En fait, je pense que la victime, encore de nos jours, fait peur. D'abord parce qu'elle dit une colère qui dénonce cette impunité, en réalité, ce silence autour de l'injustice. Donc, elle fait peur parce qu'on voudrait qu'elle se taise assez vite. On ne peut pas rester dans la colère. On voudrait que sa colère se taise et que les choses rentrent dans l'ordre, c'est-à-dire dans ce désordre souvent de l'abus de pouvoir. Ensuite, elle fait peur parce que quand elle dit ne pas vouloir pardonner, on se dit comment ça va continuer à fonctionner. Et là, on demande à la victime de porter tout le poids, en réalité, d'une société qui devrait continuer à fonctionner. Donc, il faut qu'elle taise assez vite sa colère, il faut qu'elle taise assez vite sa plainte, qu'elle répare sa souffrance. Alors, j'aimerais qu'on me dise comment on peut réparer le trou néant d'une violence, quand elle est physique ou morale. C'est un néant qu'on impose dans votre vie. Je ne vois pas comment on peut retisser. Il faut qu'elle se reconstruise. On lui demande en plus de pardonner, de se réconcilier. Et même dans la justice restauratrice qui dit mettre la justice, la victime et la justice au centre, la victime n'est pas au centre. Ou si elle est au centre, c'est parce que c'est elle qui porte le fardeau. Elle doit accepter de rencontrer ou son offenseur ou quelqu'un qui a commis la même violence. Donc elle doit se réconcilier, elle doit rétablir de l'harmonie dans la société, elle doit se réconcilier avec ce passé d'injustice, elle doit se réparer. Et je pense qu'on ne se rend pas compte de nos jours avec ces mots galvaudés à quel point c'est indécent pour une victime. Et ce n'est pas une justice. Ce n'est pas une justice, on n'obtient pas justice. Ce sont des actes mémoriels, de réconciliation, mais on n'obtient pas justice. La justice, c'est quoi? C'est que la vérité soit faite, que le coupable soit reconnu coupable, qu'on reconnaisse qu'on a fait de vous une victime et que l'institution qui est en cause, ce point est important, que l'institution qui est en cause engage une réforme profonde de cette institution qui a permis la violence et le silence autour de cette violence.
Donc finalement, c'est trop tard, quasiment, quand on arrive au moment de la condamnation. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est finalement en amont qu'on doit réfléchir à l'injustice.
Ben oui, moi il me semble que quand une victime a le courage de dire qu'elle ne pardonne pas, et non pas parce que ça serait un défaut psychologique, parce que je l'ai entendu, on m'a dit « oui, mais enfin, toi, tu prends quand même un peu trop fort les choses, tu es quand même excessive ». Vous voyez, il faut se méfier de cette pseudologique des degrés. Vous voyez, il y aurait dans la victime qui dit « ce qu'on m'a fait est impardonnable et je ne veux pas le pardonner et je désire me venger des coupables », on dit « bon non, on ne prend pas les choses comme ça, enfin tu prends les choses quand même avec un peu trop d'excès ». Vous voyez, cette euphémisation, ça serait la victime qui serait encore coupable de la façon dont elle prend l'injustice. Alors on se demande s'il y a une bonne façon de prendre la violence qu'on vous a fait subir. Je ne vois pas tellement comment il y aura une façon de bien le prendre. Mais en tout cas, je pense que c'est trop tard et ça sera toujours trop tard si les institutions qui abritent l'abus de pouvoir et le permettent, les institutions, l'Église, l'université, le cinéma, le sport, la politique. Je suis frappée de voir le périscolaire, la famille. Je suis frappée de voir à quel point les institutions ne répondent pas à leur vocation. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une fascination du pouvoir chez tout le monde, n'importe qui. Le petit pouvoir, ma place de parking, ma place dans le TGV. Vous avez peut-être remarqué, quand vous n'êtes pas à la bonne place dans un train, on vous dit ni bonjour, ça m'arrive, hein. Ni bonjour, ni rien, c'est ma place. Le pouvoir, l'abus de pouvoir, il commence comme ça.
Parce que qui dit pouvoir dit abus.
Pour moi, tout pouvoir, et c'est pas que pour moi, je me suis servi de philosophe comme Montesquieu, hein, tout pouvoir est abus de pouvoir. Si on ne limite pas le pouvoir se vit selon la modalité du manque. On n'a jamais assez de pouvoir. On en veut toujours plus. Le pouvoir est une avidité. C'est une volonté cumulative. Il faut encore plus de pouvoir parce qu'à un moment donné, ce que veut le pouvoir, c'est qu'il n'y ait plus rien d'autre que lui. Donc, c'est les phrases qui est « ouais, mais moi, je peux me le permettre, mais enfin, vous savez qui je suis » ou que j'ai entendu de la part de victimes « je ne peux quand même pas aller le dénoncer, vous avez vu qui c'est, qui il est ou qui elle est ». Donc, c'est ça l'abus de pouvoir. Mmh. Et si on ne limite pas le pouvoir par de véritables contre-pouvoirs qui, à mon sens, n'existent pas encore dans les institutions, ben, ça sera toujours trop tard, comme vous le dites, il y aura toujours une autre victime. Donc je pense qu'au lieu de parler de justice restaurative, qui n'est pas de la justice et qui demande à la victime de se restaurer ou se réparer, je ne dis pas qu'il ne faut pas se réparer, mais je soutiens que la réparation peut se faire dans le refus de pardonner.
Alors, ma dernière question sera celle que vous évoquez vous-même en disant que votre question à vous, c'est de continuer de vous interroger en vous demandant si l'injustice est accidentelle ou absolue.
Ah oui, alors et ça me permettra de vous répondre sur ce que vous me demandiez aussi, la vengeance, c'est d'exiler l'offenseur. Ce qui frappe quand vous êtes victime d'injustice, c'est que vous vous rendez compte qu'en fait, l'injustice était toujours là. Et contrairement à ce que dit la grammaire, injustice, c'est la privation de la justice. Donc, il y aurait d'abord la justice et puis sa négation par l'injustice. Je crois, hélas, que l'injustice est première. Je crois que ce qu'éprouve une victime, c'est que notre monde est injuste. Et j'ai retrouvé le sens des cris des prophètes ou des psaumes dans la Bible. Je ne dis pas ça par conviction religieuse, même si j'ai la foi. Enfin, je l'ai conservée malgré tout. Mais je trouve que ce que disent ces prophètes ou ces cris dans les psaumes, « Mon Dieu, ce monde est inique !» L'appel à Dieu pour dire « Mais comment ce monde est possible ? Comment l'innocent peut être maltraité ? Comment le juste peut être condamné ? Comment celui qui est dans la vérité peut être mis à l'écart ? On dirait de nos jours, violenté, licencié, obligé à se taire. » Donc je crois qu'il y a la révélation, oui. Je suis désolée de dire quelque chose, notre époque qui adore les choses positives, de dire quelque chose qui semble pas l'être, mais je pense qu'il faut prendre la mesure de la gravité de l'injustice. Oui, l'injustice est première. Et ce que nous faisons, c'est tout à notre honneur, c'est peut-être notre grandeur dans ce qui est si difficile, nous essayons de ramener de la justice dans ce monde qui ne l'est pas et qui permet trop souvent le silence et l'impunité autour de l'injustice. Maintenant, la vengeance. La vengeance, elle permet de dire tout ça. Moi, j'aurais jamais été capable de voir tout ça, de comprendre que j'étais pas coupable si j'avais pas éprouvé le besoin de vengeance. Alors, quel est-il ? C'est pas du tout ces petites manigances, j'irai faire telle ou telle chose. C'est pas la représaille non plus, parce que là, c'est répondre au même niveau que l'offenseur. Et ce que veut la victime, c'est ne jamais appartenir à ce même monde que celui de l'offenseur. Et c'est ça, à mon sens, qui est la justice accomplie. Et le cœur du désir de vengeance, c'est dire les offenseurs, les coupables, ne font pas partie du monde. Ils ne sont pas de mon monde. Ils sont même hors du monde. C'est ce que j'appelle la damnatio memoriae, la condamnation à l'oubli. Pour moi, ces êtres-là n'existent pas. Je leur refuse tout droit à partager le monde avec moi. Donc non seulement je ne veux pas me réconcilier, mais je ne veux ni dialoguer, ni les voir, ni leur parler. Pour moi, ma vengeance, c'est qu'ils n'existent pas. Eux qui m'ont exilé de toute justice, de ma propre voix, de ma propre personne, qui m'ont privé de ce que j'étais, c'est ça l'injustice. Je les prive du fait de pouvoir m'adresser la parole.
Oui, et d'ailleurs, non, pour finir, je citerai, il y a tellement de choses vraiment intéressantes dans votre livre de ce point de vue-là, mais je citerai le fait que vous dites que finalement, la vengeance est un espoir en cela qu'elle permet à chaque individu de pouvoir exclure quelqu'un d'autre et non pas poursuivre le dialogue, puisque, par exemple, vous indiquez que la victime est toujours prête au dialogue alors que l'accusé, rarement, en tout cas, elle ne revient pas en arrière. Enfin, bref, en tout cas, j'invite vraiment les gens qui vous écoutent, Laurence de Villers, à lire votre livre qui soulève énormément de questions très politiques et culturelles, sociales, importantes aujourd'hui. Merci encore.
Merci à vous.